Laudetur Jesus Christus.
Un sommet tripartite organisé hier à la Maison-Blanche. Il a rassemblé États-Unis, Japon et Philippines. L'occasion de renforcer leur partenariat stratégique contre les ambitions de la Chine et pour Joe Biden de rappeler que sa priorité est bien la zone Indo-Pacifique. La pauvreté explose en Birmanie alors que le pays est ravagé par une guerre civile. L'ONU partage ses inquiétudes. Le taux de pauvreté y a presque doublé depuis 2017. Dans ce journal, nous irons aussi au Royaume-Uni qui durcit ses conditions d'octroi des visas familiaux pour les travailleurs immigrés notamment. Nous parlerons aussi de la guerre civile au Soudan qui ne faiblit pas et pousse des milliers de personnes à l'exil. Nous entendrons une responsable de Médecins sans frontières qui travaille dans des camps de réfugiés au Tchad voisin. Et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur le Gabon où s'est ouvert il y a quelques jours le dialogue national inclusif pour réfléchir à la transition politique. La présidence de ces assises a été confiée à l'Église catholique gabonaise. Notre invité est prêtre, porte-parole de ce dialogue national.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, comment contrer les ambitions chinoises dans la zone Indo-Pacifique? Ce fut la question centrale au cœur de ce sommet tripartite hier à la Maison-Blanche. Joe Biden recevait les dirigeants japonais et philippins, deux de ses alliés clés dans la région. Une occasion pour Washington de réaffirmer son partenariat de défense avec ces deux pays face aux menaces de Pékin. Loïc Loury.
L'engagement des États-Unis pour la sécurité du Japon et des Philippines est inébranlable, les mots de Joe Biden à l'occasion de ce sommet avec ses deux partenaires, au lendemain de la fastueuse visite d'État du Premier ministre japonais et de déclarations déjà critiquées par Pékin. Le président américain a cette fois assuré que toute attaque contre les forces armées philippines en mer de Chine méridionale déclencherait la mise en œuvre du traité de défense mutuelle en vigueur. Depuis des années, la tension monte dans la région et les incidents se sont multipliés, notamment ces derniers mois entre Pékin et Manille. Les États-Unis affirment donc vouloir approfondir leurs liens en matière de sécurité maritime avec le Japon et les Philippines, promettant aussi à ces derniers une coopération économique et technologique plus étroite. Objectif pour Washington, renforcer son réseau d'alliances en Asie-Pacifique et préparer un éventuel conflit autour de Taïwan, point névralgique des tensions. Pékin reste bien, Joe Biden l'a dit dès son arrivée au pouvoir, l'adversaire stratégique numéro un des États-Unis. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Restons aux États-Unis où l'ancien président Donald Trump, qui brigue un nouveau mandat à la tête du pays, est attendu lundi prochain devant un tribunal de New York. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un ancien président doit affronter la justice pénale. Il est accusé de falsification de documents comptables de son groupe immobilier, la Trump Organization. Le milliardaire dénonce une chasse aux sorcières pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche. Le Mexique saisit la Cour internationale de justice contre l'Équateur. Décision prise quelques jours après le raid policier contre son ambassade à Quito et qui a provoqué la rupture diplomatique entre les deux pays. Le 5 avril, des policiers ont forcé la représentation diplomatique mexicaine dans la capitale de l'Équateur pour y arrêter l'ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui s'y était réfugié. Dans sa plainte, Mexico demande que Quito soit suspendu des Nations Unies jusqu'à, je cite, qu'il présentent des excuses publiques, reconnaissent les violations des principes et normes fondamentales du droit international. La justice argentine accuse l'Iran d'être responsable des attentats de Buenos Aires en 1992 et 1994 qui ont visé la communauté juive. Le premier attentat contre l'ambassade d'Israël avait fait 29 morts. Le deuxième, deux ans plus tard, avait visé le bâtiment de l'association mutuelle israélo-argentine, l'AMIA, où 85 personnes avaient été tuées et 300 autres blessés. C'est le pire attentat de l'histoire du pays. Le jugement déclare l'Iran comme État terroriste et désigne le Hezbollah comme l'auteur des attentats. Le président des associations israélites d'Argentine a salué une décision historique. La junte birmane confirme la perte d'une ville stratégique à la frontière avec la Thaïlande. Depuis des mois, la junte militaire affronte une coalition de groupes ethniques, en particulier dans le nord du pays. La rébellion armée a repris de la vigueur depuis le coup d'État militaire de 2021. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères est attendu ce vendredi à la frontière. N'oublions pas la Birmanie, exhortait mercredi le pape François à l'issue de l'audience générale. La Birmanie où la pauvreté ne cesse d'augmenter, c'est ce que révèle un nouveau rapport des Nations Unies. La pauvreté qui a presque doublé entre 2017 et 2023, touchant désormais près de la moitié de la population, Jean-Benoît Harel.
Oui Olivier, selon ce nouveau rapport du programme des Nations Unies pour le développement, 49% de la population birmane vivait fin 2023 en dessous du seuil de pauvreté de moins de 1 euro par jour, contre seulement 25% en 2017. En 6 ans, la situation économique a plongé, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, puis de la crise provoquée par le coup d'état de la junte militaire de février 2021. Le pays est encore en proie aux violences et aux affrontements entre l'armée et les groupes ethniques rebelles, vous le disiez, difficile d'espérer une amélioration à court terme. Le programme onusien s'inquiète même d'une possible dégradation, car 25% de la population se situe à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Seul le secteur des services tire la croissance vers le haut. Par exemple, les arrivées de touristes internationaux sont 4,5 fois plus élevées au cours des 8 premiers mois de l'année 2023 qu'un an plus tôt. Pour sa part, Hakim Stein, le patron du PNUD, demande à minima l'accès aux services de base, comme la possibilité d'effectuer des transferts d'argent, sans quoi les effets de cette crise se feront sentir sur plusieurs générations. Il estime qu'il faudra au moins 4 milliards de dollars par an pour s'attaquer efficacement à cette hausse de la pauvreté, aggravée par une inflation de plus de 20%.
Jean-Benoît Harel. Un nouveau drame migratoire hier au large de la petite île italienne de Lampedusa. Au moins 9 personnes ont été retrouvées mortes, parmi lesquelles un enfant dans un bateau naufragé. Les gardes-côtes italiens ont sauvé 22 autres personnes. Sur le dossier migratoire, le Royaume-Uni durcit ses conditions pour l'octroi des visas pour les migrants. Londres a augmenté de près de 50% le prix des visas de séjour de proches, de travailleurs immigrés ou d'étudiants en doctorat. L'objectif est de réduire le solde migratoire du pays qui a atteint 672 000 entrées nettes selon les dernières statistiques l'année passée. Recouvrer le contrôle des frontières et une immigration choisie ont été les thèmes majeurs de la campagne pour le Brexit. Cependant, des aménagements ont été introduits pour faciliter le recrutement d'étrangers dans les secteurs en tension comme ceux de la santé ou de l'agriculture. Les précisions de notre correspondant à Londres, Jean Jaffré.
Lorsqu'il est entré au 10 Downing Street, le Premier ministre Rishi Sunak a solennellement fait 5 promesses, notamment une baisse drastique de l'immigration. Mais depuis le Brexit, il y a plus de 3 ans, le solde migratoire s'est accru malgré le départ de centaines de milliers de ressortissants de l'Union européenne. Robert Jenrick, ex-secrétaire d'État à l'intérieur, assurait que ces emplois seraient occupés par des travailleurs britanniques. Les nouveaux arrivants viennent majoritairement de l'Inde, du Pakistan, de la Chine et du Nigeria. 39% viennent étudier, 33% travailler et 9% pour des motifs humanitaires. Pour faire venir votre partenaire ou des membres de votre famille, vous devez avoir un permis de travail de plus de 6 mois. En plus de la condition d'un revenu de 34 000 euros environ par an, il est exigé de payer un forfait de prise en charge santé d'un montant de 1 200 euros par personne et par an. La CBI, la plus importante fédération patronale, et le premier syndicat des infirmières et infirmiers ont critiqué ces mesures qui aggravent la crise de recrutement. En outre, celles-ci ont pour effet d'augmenter la masse salariale des petites entreprises et notamment dans le secteur de la restauration. Mais à 9 mois au plus tard des législatives, les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans sont largement donnés perdants face aux travaillistes d'après les sondages. Long, Jean-Jaffré, Radio Vatican.
Un an après le début de la guerre civile au Soudan, des milliers de personnes continuent de fuir les combats dans le pays. Environ 1 million de Soudanais ont déjà fui et plus de 550 000 d'entre eux ont trouvé refuge dans l'est du Tchad voisin. La situation humanitaire y est particulièrement précaire. Dans les camps de réfugiés, on assiste à une propagation de l'hépatite E, comme le témoigne Justine Feuve et les responsables plaidoyers à Médecins sans frontières.
Presque un an après la crise, les besoins de première nécessité ne sont toujours pas couverts, notamment en termes de tout ce qui est eau et hygiène et aussi d'accès à la nourriture. C'est des conditions aussi bien dans le camp de transit d'Adré, qui est à côté de la frontière soudanaise, où il y a encore plus de 100 000 personnes, que dans les camps où les réfugiés ont été relocalisés. Chez MSF, ça fait plusieurs mois qu'on alerte sur l'urgence de la situation. Là, récemment, il y a des cas d'hépatite E qui sont apparus dans ces camps et qui sont liés à un manque d'infrastructures d'hygiène et un accès limité à l'eau potable. Sur ces cas d'hépatite E, on en dénombre plus de 1300. 300 maintenant, principalement dans le site de transit d'Adré, où les réfugiés sont donc dans l'attente d'être logés. On a une latrine pour 677 personnes en moyenne. Les messages qu'on fait passer en tant qu'MSF à la communauté internationale restent les mêmes. On est toujours en train d'appeler effectivement les bailleurs de fonds internationaux et les autres organisations humanitaires à intensifier d'urgence leur action afin de prévenir une crise médico-humanitaire qui pointe son nez, et notamment en améliorant tout ce qui est eau, hygiène, assainissement dans les camps de réfugiés.
Justine Lefeuve, responsable plaidoyer à l'ONG Médecins sans frontières, elle était interrogée par Myriam Sandounou. Depuis le coup d'État du 30 août dernier, le Gabon est en pleine transition politique, avec à sa tête des militaires arrivés au pouvoir après avoir renversé le président Ali Bongo, dont la réélection avait été proclamée 4 jours plus tôt. Dans l'objectif d'opérer une profonde réforme des institutions, les militaires réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, présidé par le général Brice Nguema, a convoqué un dialogue national inclusif. Depuis le 2 avril et jusqu'au 30 avril, plus de 600 représentants sont réunis dans un stade de Libreville pour discuter autour de plus de 38 000 propositions obtenues aussi bien des Gabonais vivant à l'intérieur du pays que ceux de la diaspora. Confiée à l'Église catholique, la présidence de ces assises est assurée par Mgr Jean-Patrick Ibaba, le président de la conférence épiscopale gabonaise. Pour en parler ce matin, Mgr Jean-Bernard Asseco, prêtre du diocèse d'Oyem, il est le porte-parole de ce dialogue national inclusif.
Depuis le 30 août 2023, le Gabon a connu un coup de libération, que certains appellent coup d'État, mais que l'ensemble des Gabonais appellent coup de libération, parce que nous étions arrivés au point où il y avait, au niveau de notre nation, beaucoup de déceptions, beaucoup de crispations, beaucoup de clivages, et le Gabon était comme un navire qui était en train de faire naufrage. Et les Gabonais ont salué avec beaucoup de ferveur le coup de libération qui a été opéré par les militaires. Alors, le dialogue national, il entre dans le programme arrêté par les militaires qui ont senti la nécessité de faire asseoir sur une même table les Gabonais de tous bords, de toute classe sociale, intellectuelle, politique, pour que nous arrêtions ensemble une nouvelle maquette de notre nation.
Quelle est la nature de ce dialogue national inclusif qui réunit les Gabonais?
C'est un dialogue qui ne sera plus politique comme les dialogues antérieurs. Il sera national et inclusif dans la mesure où il intègre toutes les classes et il intègre les politiques de tous les partis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les militaires ne voudraient plus entendre parler de clivage politique. Ils voudraient que les Gabonais, unis dans la concorde et la fraternité, telle que définie par notre hymne national, que nous nous asseyons ensemble dans un esprit convivial et fraternel pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays.
Quels sont les objectifs de ce dialogue national inclusif?
Alors, les objectifs, le premier objectif, c'est donc de réussir à réunir autour d'une même table l'ensemble des filles et des fils du Gabon pour discuter ensemble, examiner les problèmes que connaît notre nation, chercher des solutions, arrêter les solutions dans un ordre d'urgence retenu et donner à notre pays une nouvelle crédibilité. Faire en sorte que les Gabonais retrouvent leur fierté d'être Gabonais et qu'ils retrouvent que les objectifs ne sont plus individuels, mais collectifs, communs à tout le monde. Donc c'est un dialogue national inclusif qui vise le portrait d'une nouvelle maquette pour l'avenir de notre pays.
Et parmi les réformes attendues, il y a les projets d'une nouvelle constitution.
Alors, les Gabonais attendent que la constitution gabonaise, qui a été revue plusieurs fois et taillée sur mesure d'une constitution personnalisée, qu'elle redevienne une constitution qui régisse notre vivre ensemble sans tenir compte des individualités. Les Gabonais attendent que ce dialogue national restaure une dignité sociale en s'occupant des problèmes sociaux et économiques. Les Gabonais attendent que, au sortir de ce dialogue national inclusif, n'accèdent au pouvoir au Gabon que des personnes que le peuple aura voulu à la tête du pays et des affaires.
Comment se déroulent les travaux? Quel esprit règne au cours de ce dialogue national et inclusif?
Les Gabonais travaillent en commission avec beaucoup de passion, mais aussi dans un esprit de convivialité, parce qu'il n'est pas question lors de ce dialogue de faire le procès de X ou de Y. C'est vrai qu'une autopsie de la situation antérieure au 30 août 2023 est nécessaire, mais nous préférons, lors de ce dialogue, ne pas nous attarder sur un quelconque procès de ceux qui ont dirigé le Gabon avant, mais plutôt de faire des propositions qui nous projettent vers l'avenir et qui nous permettent de travailler ensemble après une bonne réconciliation, dessiner ensemble ce que nous attendons faire de notre pays.
Interrogé par Stanislas Cambachi, la BACECO, porte-parole du dialogue national inclusif au Gabon, était l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, ce sera à 13h. Excellente journée à tous.